Bonjour, bienvenue dans La mort tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi avec ce projet de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti!
Paysanne aux mains rugueuses, reposant sur le tablier, pouvant pas être malheureuse, ignorant même ce que c'est. Je ne peux croire que la force, quand ton regard calme je vois, de jour en jour, de gosse en gosse, soit pas arrivé jusqu'à moi. Ai-je ta volonté farouche, toi la femme du bûcheron, toi l'inconnu, pays en bouche dont je ne sais même le nom, mère de qui m'a fait à coudre, la silencieuse Marie. Et que d'orage, que de foudre, réduisent le temps de broderie. Que la Madeleine, avec son bonnet à tuyaux.
Aujourd'hui, je m'entretiens avec deux femmes. Deux, celles du dessus. La première est Laure Fontvieille, directrice artistique de la compagnie La mort est dans la boîte. Laure est également la metteuse en scène de Celle d'en dessous, un spectacle qui se joue dans les cimetières. Ma seconde invitée est Camille Kerdélan, comédienne dans Celle d'en dessous. Vous entendrez le portrait de la Sainte au pochon, interprété par Camille, au cimetière Nord lors du Festival des Tombées de la Nuit en novembre 2022. Nous terminerons par une discussion avec Camille, cette comédienne de 60 ans à l'âme d'enfant. La mort, tout un art. L'art de jouer dans les cimetières avec Laure Fontvieille. Laure, vous avez créé la compagnie La mort est dans la boîte, avec laquelle vous avez mis en scène plusieurs spectacles, dont Celle d'en dessous. Et je reprends les mots inscrits sur votre site web. Dans un cimetière, cinq comédiennes font revivre par leur voix et leur corps cinq femmes remarquables, inhumées. Femmes politiques ou militantes, artistes, témoins de l'histoire locale, illustres inconnus, remarquables, oubliés. Celle d'en dessous met en valeur notre matrimoine en imaginant un dialogue entre mort, morte, et vivant et vivante. Ce spectacle a une autre particularité, il se joue dans les cimetières. Comment cette histoire a-t-elle commencé ?
Alors, cette histoire a commencé en 2019, où j'ai reçu un mail de Nathalie Bidan, qui travaillait au service funéraire de la ville de Rennes, et qui me demande si je suis dispo pour un rendez-vous parce qu'elle s'occupe aussi de tout ce qui est animation dans le cimetière. Voilà. Donc j'avoue qu'au début, je me dis, mais qu'est-ce que me veut le service funéraire ? Qu'est-ce que je... Enfin voilà, bon. Mais j'y vais quand même. Enfin, tout de suite, évidemment, je me dis que c'est sûrement à cause du nom de ma compagnie qu'elle est tombée sur nous avant d'y aller, parce que donc la mort est dans la boîte. Bon, voilà. Et donc je vais à ce rendez-vous, et donc là Nathalie m'explique qu'elle est chargée de la valorisation du patrimoine funéraire, qu'elle a déjà travaillé avec des compagnies, voilà, ou alors des concerts aussi, des fois il y a des concerts pour la Toussaint, tout ça, et qu'elle aimerait voilà, un peu changer, proposer d'autres choses dans le cimetière, qu'elle nous a trouvé effectivement à cause de notre nom, La mort est dans la boîte, et elle me dit, bon, du coup je me suis dit que vous auriez pas peur de faire du théâtre dans un cimetière. Et puis ensuite, elle a vu aussi qu'on faisait du théâtre documentaire, donc elle s'est dit, bon ben, pourquoi pas, au niveau du coup historique, tout ça, ça peut peut-être le faire. Voilà, je sais que du coup, très vite, elle me montre déjà des guides, parce qu'elle avait déjà édité des guides pour pouvoir aller visiter les cimetières, cimetière de l'Est, cimetière Nord, avec plusieurs tombes remarquables, voilà. Et tout de suite, la première chose que je remarque, parce que j'ai un peu mes lunettes de féministe, je remarque qu'il n'y avait que des hommes, quasiment. Il y avait peut-être une femme. Et je dis, bah, je suis sûre que là, il doit y avoir plein de femmes remarquables dans ce cimetière. Et donc, vraiment, très vite, l'idée est arrivée comme ça dans la conversation où j'ai dit, mais moi, ouais, je crois que j'adorerais faire un parcours comme ça où on découvre des femmes qui sont inhumées ici, jouées par des comédiennes, et vraiment que les comédiennes interpréteraient ces femmes, quoi. Ça, c'est très vite une idée qui m'est venue, notamment aussi via le costume, parce que je suis aussi costumière, et que par le passé, dans certaines créations, des fois, j'ai refait, par exemple, des costumes d'un tableau, qu'une comédienne ou un comédien devait jouer le rôle d'un tableau connu ou quoi. Donc, on reprenait voilà, le costume, les couleurs de l'époque, et ça m'avait beaucoup plu. Et donc là, je me disais, tiens, on pourrait faire pareil, où on se balade dans le cimetière, et tout d'un coup, au loin, on a une femme qui est peut-être du XVIIe siècle, avec une robe d'époque qui est là, sur sa tombe. Et tout d'un coup, ben, on y croit, et comme si on entrait dans un tableau, quoi. Voilà. Donc ça, je lui ai toujours tout de suite proposé ça. Et on est allé visiter le cimetière, je me souviens. Et puis vraiment, elle m'a dit banco tout de suite, quoi. Elle m'a dit, ah, mais carrément, ça me parle tout... Enfin voilà, puis bon, maintenant, voilà, depuis, Nathalie Bidan est quelqu'un que je vois toujours, qui fait autre chose maintenant, mais qui est quand même une super celle du dessus. et donc voilà, elle a tout de suite dit banco... Donc on est parti au cimetière de l'Est, en premier en 2019, où on a créé sur 5 femmes remarquables du cimetière de l'Est.
Qui sont ces femmes, justement, dont vous parlez ?
Alors bien souvent, on a des femmes qui ont par exemple été déportées, qui ont été résistantes. Ça, dans tous les cimetières en France, malheureusement, voilà, la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Donc on a souvent ces histoires-là. On a aussi... Après, moi, j'essaye vraiment de choisir... en fait, au départ, en amont de la création d'un Celle d'en dessous, puisque donc c'est à chaque fois une recréation pour chaque cimetière, je fais une visite où je demande qu'on me présente au moins une dizaine, au minimum une dizaine de femmes. Et après, je choisis vraiment suivant la diversité des parcours. Donc, des fois aussi, il y a des artistes qui... Donc, ça peut être... on a eu des peintresses, des autrices, une speakerine radio, enfin, voilà. On a eu aussi des femmes politiques, des femmes engagées. On a eu aussi des criminels, notamment d'ailleurs à Rennes. Enfin, à Rennes, dans les deux cimetières, on a des criminels. Donc, c'est aussi pour montrer que... voilà, on peut être une femme remarquable en ayant fait des trucs horribles, quoi. Enfin, voilà, que les femmes sont pas que... douce et gentille aussi. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est le spectacle se termine avec une illustre inconnue, donc qui est une femme qui n'a rien fait de spécial, on va dire, mais dont la famille veut bien nous raconter son histoire. Et en fait, c'est aussi pour éviter l'écueil de l'exception. Et puis à partir du moment où on nous raconte une vie, en fait, on se rend compte que toute vie est extraordinaire. L'idée d'avoir une illustre inconnue, ça a commencé à Toulouse, dans un appartement, chez une amie. Et son amoureux me dit que son arrière-grand-mère est enterrée au cimetière de l'Est, et qu'elle a vécu jusqu'à 107 ans. Et je me dis, mais non, mais c'est génial. Voilà. Et donc ça a vraiment commencé comme ça.
Et qui sont ces actrices comédiennes qui interprètent ces rôles ?
Alors, dans celle d'en dessous, moi je suis ravie, parce que du coup ça me permet de travailler avec plein de comédiennes. Moi, j'ai plein de comédiennes que j'admire. Je suis avant tout très, très fan voilà, des comédiens, des comédiennes. Donc là, pour le coup, les comédiennes. Et donc, du coup, il y a Camille Kerdélan, Manon Payelleville et Sophie Renoux qui sont un peu, on va dire, les permanentes de celles d'en dessous qui me suivent dans tous ces projets. Et qui sont du coup... C'est-à-dire la diversité des parcours. Tout à l'heure, on parlait de la diversité des parcours des femmes d'en dessous, mais aussi les comédiennes. Pour moi, c'est important d'avoir des comédiennes de tout âge, de tout horizon, voilà, de physique aussi différent, enfin voilà, pour refléter aussi la société. Et après, du coup, à chaque fois, dans chaque cimetière dans lequel on est, on travaille avec deux autres comédiennes, donc puisqu'elles sont 5 en tout. Et ça permet aussi, par exemple, à Strasbourg, au cimetière Nord, la première fois qu'on est allé à Strasbourg, où j'ai travaillé avec deux anciennes élèves du Théâtre National de Strasbourg. Donc ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres comédiennes super. Et puis c'est surtout, on s'est dit, alors avec Sophie, qui travaille très très souvent avec moi dans la compagnie, on s'était dit toutes les deux, c'est super parce qu'on va pouvoir rencontrer plein de comédiennes, et qu'à force, si on crée dans plein de cimetières, il y aura plein de celles du dessus qui connaîtront les histoires de celles d'en dessous. Et ça aussi, c'est assez plaisant de se dire ça. Donc du coup, ouais, pour les citer, parce que j'aime bien citer aussi tout le monde, toutes celles du dessus. Donc à Rennes, on a aussi Sandrine Jacquemont, Gaëlle Hérault et Inès Cassignol qui nous ont rejoints. À Nantes, il y avait Emmanuel Briffaut et Hélène Vienne. Et à Strasbourg, on a eu aussi donc Flora Diguet, Mouna Benrali, Clémence Boisset, Laïla Muse. Voilà.
Alors jouer dans un cimetière offre un décor naturel, une lumière magnifique. Avec des costumes conçus sur mesure par vos soins, vous le disiez, en quoi est-ce important pour vous d'être si proche de la réalité ?
Je trouve que à partir du moment où je voulais qu'elle dise je, et pour moi, enfin, en plus pour moi en ce moment, je trouve qu'il y a vraiment, en tout cas moi, j'ai un besoin de que les femmes se réapproprient leur histoire et disent je. Et donc du coup, à partir du moment où j'ai choisi cet axe-là, c'était assez logique. Qu'elle soit elle-même, et donc dans mes recherches, bon après voilà, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi costumière, et donc je suis assez fan de faire aussi ces recherches iconographiques, et pas que, parce que du coup je fais plein de recherches sur leur vie, voilà, documentaires, où je vais interviewer des gens qui les ont connus, mais il y a aussi des recherches aussi iconographiques, alors des fois mes recherches, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'images, hein, des fois, donc je fais par rapport à l'époque, par rapport à la vie qu'elles ont eue, leur statut social, voilà. Et donc pour moi, oui, c'est important d'aller au plus près de ce qu'elles sont, et dans le costume, mais même on va plus loin, c'est-à-dire même avec les comédiennes, on travaille aussi des fois dans les caractères aussi. Donc dès qu'on arrive à avoir des infos aussi sur quel caractère elles avaient, comment elles bougeaient, ou des fois on a des documents aussi audio, donc comment elles parlaient, plus on est proche, et plus c'est vivant, et puis en plus... Voilà, on est dans du théâtre documentaire, c'est des vraies personnes qui ont vraiment existé. Elles sont enterrées juste en dessous de nos pieds. Et je trouve que c'est le minimum, qu'on leur doit ça au minimum, quoi. Même si forcément, il y a forcément de la fiction dans ce qu'on fait, puisqu'il y a forcément des choses qui nous échappent, et ça passe forcément par notre subjectivité, quoi.
Alors, pour continuer sur ce travail de recherche, vous le disiez, à chaque cimetière, c'est tout un travail, puisque ce ne sont pas les mêmes femmes qui sont enterrées, évidemment. Et donc, il y a tout ce travail-là en amont que vous menez comme une enquêtrice. Est-ce que vous voulez nous en dire plus, et aussi du lien que vous créez avec les familles ? Enfin voilà, il y a des choses qui doivent remonter à la surface quand vous venez vous toquer à leur porte en voulant leur parler de leur arrière-grand-mère. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces recherches ?
C'est assez passionnant. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, dans toutes mes autres créations aussi, comme on fait du théâtre documentaire, par exemple, il y a une autre pièce qui s'appelle Le cœur de l'hippocampe où on a travaillé avec des neurologues. Donc, je suis assez fan d'aller découvrir aussi des nouveaux métiers. Les gens, ils sont passionnés. Ils nous racontent plein de choses. Enfin, voilà. Puis, des fois, j'ai rencontré des philosophes. Bon, bref. Et donc, là, c'est pareil. Je mène l'enquête sur ces femmes. Et ça m'amène à rencontrer plein de gens différents. Donc je sais que par exemple, une des dernières rencontres moi, qui m'a vraiment marquée, c'était donc à Strasbourg, pour la création au cimetière sud de Strasbourg, où donc un de nos personnages, c'est Cécile Sauer, qui était archéologue, donc interprète Camille Kerdelan. Et j'ai rencontré du coup une ancienne archéologue du palais de Rouen, qui là est à la retraite, qui n'a pas beaucoup connu Cécile Sauer, mais qui a beaucoup beaucoup d'informations sur elle. Et donc, par exemple, j'ai passé une journée géniale avec elle. Où d'abord, d'ailleurs, elle est venue me chercher à la gare. Elle m'a accueillie à Strasbourg en m'offrant un thé, une pâtisserie. Puis ensuite, je me suis retrouvée au Palais de Rouen, où j'ai pu aller voir tous les sous-sols du musée, toutes les petites anecdotes. Enfin, c'est juste génial. J'y serais allée en touriste toute seule. J'aurais bien aimé, mais il m'aurait manqué ce petit plus, quoi. Et aussi les sensations de se dire tiens, Cécile Sauer, elle était là, elle a descendu ces escaliers en grès, elle a marché sur ce carrelage hexagonal marron qui est quand même pas forcément un peu vieillot, mais en même temps voilà, il y a cette ambiance là, enfin voilà, j'ai pu sentir aussi là où elle était, quoi. Et donc pour écrire le texte après, c'est d'autant plus des... c'est là aussi où il y a d'ailleurs un peu de fiction sûrement, et que ça passe en tout cas par ma subjectivité, c'est-à-dire que quand j'ai écrit le texte, je parle effectivement de ces escaliers en gris et de ces carreaux hexagonales marrons parce que ça m'a marquée. Mais voilà, en tout cas voilà, c'est des super rencontres. Après aussi avec les familles, notamment avec l'illustre inconnu. Donc moi j'aime bien interviewer au moins deux personnes différentes de la famille, parce qu'on sait bien que chacune en a des points de vue différents sur une même personne. Donc ça, j'aime bien recouper ça, et on voit, enfin, j'ai assisté à alors soit des gens qui s'aiment très fort, qui sont très unis dans cette famille, mais aussi des familles où il y a des choses assez complexes, mais après que ce projet-là les réunit ou pas, mais enfin donc en tout cas oui, ça va bouger des choses et je remercie à chaque fois ces personnes qui m'autorisent à rentrer dans cette intimité-là quoi, chez eux, et de me raconter toutes ces vies, enfin voilà donc ouais, c'est quand même super chouette. Et pareil à Strasbourg dernièrement, tiens, tout à l'heure on parlait des costumes, il y a un costume que je n'ai pas fait parce qu'on a une Alsacienne qui est en costume alsacien. Et du coup, c'est donc la petite fille qui nous a prêté son costume et avec des choses aussi de la défunte, voilà. Et c'était super émouvant, par exemple, donc on est allé chez elle pour le premier essayage costume avec la comédienne, donc Sophie, qui joue donc Jeanne Feil. Et c'était enfin, vraiment, j'avais les larmes aux yeux, quoi, de voir tout ce costume-là, la mise en place, elle m'a expliqué dans quel ordre il fallait absolument mettre ça. Enfin, et voilà, et tout le respect aussi qu'on peut avoir. Voilà, même si après, en répétition, ça ne nous a pas empêché à un moment d'avoir aussi notre gros fou rire du costume folklorique, tout ça. Mais tout ça aussi, enfin, et le fou rire et les larmes, je trouve, vont avec. Et je trouvais ça chouette, quoi.
Et ces familles, elles viennent aussi voir la représentation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ouais, alors ils viennent voir les représentations et alors bien souvent, ils tombent dans les bras des comédiennes. Je me souviens notamment à Strasbourg, au cimetière Nord, cette fois-ci, où Sophie incarnait Madeleine Bakgeni et où je pense qu'on avait chopé, Sophie avait réussi à choper la manière même dont elle bouge, dont elle dit les choses et dont... que vraiment la famille, mais alors ouais, voilà, on était en plein Covid, avec 50 spectateurs masqués et tout, puis ils lui ont fait des gros câlins. Après, parce que vraiment, j'ai dit à Sophie, je dis non mais bientôt tu vas être invitée à Noël quoi, chez eux, parce qu'ils retrouvaient tellement Madeleine en Sophie, en sachant que Madeleine, clairement, et Sophie ne se ressemblent pas du tout physiquement, par exemple, mais elle avait chopé, je pense, en plus de tout ce qu'elle dit sur sa vie et tout, chopé la manière d'être de cette femme, quoi. Et ça, c'est assez chouette quand ça se passe comme ça. Et souvent, on a des moments... Il y a aussi une très belle rencontre au cimetière Nord, tiens aussi, où il y a une stèle qui a été mise au cimetière Nord de Strasbourg pour reconnaître le génocide rwandais. Et on a travaillé avec Immaculée Cattier, qui est une association là-bas à Strasbourg. Et du coup, Clémence Boisset a interprété Félicité Nili Tegeka, qui était une sœur de l'apostolat, et pour raconter ce massacre et comment elle a été massacrée. Et c'est super émouvant. Et alors, la rencontre entre Clémence et Immaculée, c'était juste... c'est merveilleux, quoi. Ça a été une vraie, vraie, vraie rencontre. Je suis pas sûre là qu'elle se revoie et tout, mais ce que je suis certaine, c'est que même si elle se revoit dans 10 ans, dans 20 ans, elle se tomberont dans les bras. C'était chouette aussi de voir ça, quoi. Que la boucle est bouclée et que la nouvelle génération raconte l'histoire passée, quoi.
Alors, vous le disiez au début, ce spectacle, il est né un peu d'une commande du service funéraire de Rennes. Il devait jouer qu'une fois. Puis en fait, là, il a joué à Rennes, donc cimetière de l'Est, d'abord Nantes, Strasbourg, dans différents cimetières de Strasbourg. Là, il a joué récemment à Rennes de nouveau, au cimetière du Nord, dans le cadre des Tombées de la Nuit. Comment expliquez-vous cet engouement?
Oui, en tout cas, au début, c'était juste vraiment un one-shot. On devait faire ça qu'une fois. C'était une commande par Nathalie Bidan. En tout cas, ce qui m'a déjà surpris, c'est que la première fois où on a joué, il y avait énormément de monde. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec 120 personnes, alors qu'on en attendait peut-être 50, 60. Enfin voilà, c'est une jauge réduite, hein. On se balade dans le cimetière. Et donc déjà, je me suis dit, waouh, enfin, ça veut dire que ça intéresse les gens d'aller voir un spectacle dans un cimetière, déjà. Donc ça ne coince pas à ce niveau-là. Tout de suite aussi, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que dans le public, il y avait effectivement des gens peut-être du milieu du spectacle, c'est sûr, qu'on connaît, ou des amis, tout ça. Mais il y avait aussi plein de gens qui viennent régulièrement au cimetière, qu'on a croisés, parce qu'à chaque fois, on fait aussi des rencontres de dingue dans les cimetières. Des gens qui viennent tous les jours et qui nous racontent plein de choses. Enfin, donc ça, c'est génial. Donc il y avait aussi toutes ces personnes-là. Et donc parmi elles, il y avait aussi des gens de la ville aussi. Enfin voilà, ce qui fait que... On a rejoué parce qu'ils ont vraiment adoré et tout. Alors après, C'était en 2019, il n'y avait pas encore le MeToo théâtre, tout ça. Enfin, il y a aussi effectivement la valorisation du matrimoine, on va dire, ça y est, ça bouge et ça commence à être important pour de plus en plus de monde. Donc il y a peut-être ça aussi. Il y a aussi le côté bah, qu'on est dehors, qu'on se balade, qu'on voit le cimetière autrement. Et que peut-être aussi, je me dis qu'on. Un truc de conjurer la mort, un peu, de voir ce lieu autrement. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, oh là là, moi, vraiment, j'aime pas du tout aller dans les cimetières, j'ai beaucoup de mal, je suis très angoissée par la mort, voilà. Qui, en fait, sont venus voir le spectacle avec un peu, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va me faire? Et qui, en fait, les ont complètement détendus, quoi. Et parce que bah, ça, je le dis toujours, que pour moi, c'est pas du tout un spectacle sur la mort, mais que c'est un spectacle sur les vivantes, quoi. Voilà, et les vivants. Et que c'est juste les mortes qui parlent aux vivants. Donc, il y a peut-être ça aussi, au final. Et en tout cas, moi aussi, bah, je suis pas une spectatrice lambda, du coup, puisque je le vois et je le revois. Et je suis toujours autant émue de voir ces femmes. Le spectacle commence par une chanson où elles chantent tout ensemble. Enfin, je suis toujours tellement émue de voir ces femmes. Et parce que je sais celles du dessus, donc toutes ces comédiennes, là, devant moi, où il y a une tellement grande sororité entre elles. Enfin. Donc ça m'émeut beaucoup, mais ça m'émeut aussi de voir toutes ces femmes donc du dessous qui viennent d'époques complètement différentes, qui ont fait tellement de choses géniales dans leur vie. Enfin, ouais, c'est assez. En tout cas, moi, par exemple, ça marche toujours sur moi. Je suis toujours aussi émue de voir et d'entendre ces histoires. Bah déjà, j'adore qu'on me raconte des histoires et je crois que c'est important que les femmes racontent leurs histoires.
Et quelle est la suite pour celle d'en dessous? Quels sont les projets à venir?
Alors, les projets à venir, on va rejouer au cimetière sud de Strasbourg l'année prochaine, devant des scolaires pour la première fois d'ailleurs, parce qu'il y a eu des profs qui sont venus voir et qui ont demandé. Et j'ai dit, eh ben oui, pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais je pense que c'est une très bonne idée. On a aussi un nouveau projet de salle d'en dessous, un peu différent, au cimetière Saint-Cyr de Rennes, qui est un tout petit cimetière avec c'est que des bonnes sœurs. Et du coup, donc ça va être plutôt, au lieu d'une balade théâtrale, ça va être une randonnée théâtrale, puisqu'on va aussi découvrir le quartier. Et on va s'attacher au nom de rue, au nom d'esplanade, voilà, de femmes, toujours. Et ensuite, on a d'autres villes qui nous ont demandé, enfin voilà, c'est en cours dans déjà au moins 3 autres villes. Donc après, le temps que ça se mette en place et tout, ça sera peut-être pas pour 2023, mais peut-être pour 2024. Et après, moi, dans mes envies, j'ai très très envie effectivement de rejouer à Rennes. Enfin, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, au cimetière de l'Est notamment, où c'était notre premier cimetière, on a rejoué qu'une seule fois. Et vraiment, je me dis, ah oh ben mince, j'aimerais vraiment beaucoup le rejouer. Et puis on voit bien qu'à chaque fois, il y a plein 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 de monde. Donc je pense qu'on aurait largement de quoi rejouer plusieurs fois, et à l'Est et au Nord. Donc voilà. Fin. Après, voilà, c'est pas de mon ressort. Il faut qu'on soit programmé. Donc voilà, j'appelle, je fais une annonce. Aux programmateurs et programmatrices rennais, si vous voulez nous reprogrammer, on est prête à rejouer. Voilà, et puis, bon, mon rêve, ça serait de jouer à Paris. Alors, pas au Père-Lachaise, mais aussi au cimetière. Enfin, bon, il n'y a pas que le Père-Lachaise à Paris, il y a d'autres cimetières assez chouettes. Mais de faire un énorme celle d'en dessous, mais alors, il faudrait vraiment beaucoup de sous, avec peut-être 30 comédiennes, quoi. Et voilà, et que pendant une journée entière. Le cimetière fasse retentir haut et fort les histoires de ces femmes. Bon voilà, ça c'est un méga rêve, faut que je gagne au loto. Ou pareil, j'en appelle aux programmateurs et programmatrices qui auraient beaucoup de sous à donner pour ce projet. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais voilà, ça serait super.
Est-ce que vous voulez parler du documentaire?
Oui, on fait un. Il y a donc Mélodie Ceinturion qui est une réalisatrice. Qui est une amie aussi à la base, mais qui a aussi une chaîne YouTube où ça s'appelle Elles font trop d'histoires, donc qui s'intéresse beaucoup au matrimoine et à toutes ces femmes oubliées voilà, du passé. Je vous conseille d'aller voir. Qui nous rejoint un peu dans l'équipe de celle d'en dessous, en fait, qui va nous suivre là sur une année. Elle nous suit un peu partout pour filmer, pour faire un documentaire sur le projet. Pas du tout que pour filmer le spectacle en lui-même, mais aussi tout ce qui se passe autour, toutes les répétitions, tout, voilà, bah, ce lien tout à l'heure que j'ai nommé, là, ces liens de sororité entre les comédiennes, voilà, puis tout, et moi aussi, toute ma recherche, elle me suit, mais je suis ravie, voilà, qu'on laisse une trace aussi de cette aventure, quoi, qui est, en tout cas pour l'instant, je m'en lasse pas, qui est vraiment super, et donc c'est chouette qu'on laisse une trace avec un documentaire filmé. Voilà, donc d'ailleurs, si vous voulez soutenir ce projet, on a lancé une cagnotte en ligne. Voilà, vous pouvez aller voir sur le Facebook de la compagnie LMDB, La mort est dans la boîte.
Vous écoutez La mort, tout un art. Merci Laure Fonvieille pour cet entretien. Place à la Sainte aux Pochons, interprétée par Camille Kerdelan, suivie d'une discussion avec
Pensez
cette
comédienne. Pensez au malheureux, qu'une œuvre méritoire profite aux plus nombreux, pénétrée d'indulgence pour vaincre notre peur. Toujours par la clémence, triomphe le bonheur. Plus l'être fut coupable, plus soyons généreux. Fuyons l'inexorable et soyons plus heureux. Cet acte de clémence doit prouver à jamais toute la bienfaisance du respect de la paix.
Ici, je repose. Dame Hélène Philippe de Couëtlogon, marquise de Couëtlogon. Je suis venue au monde en 1630. À 13 ans, me voilà mariée à un parent, René de Couëtlogon, vicomte de Méjussaume, gouverneur de Rennes. Nous aurons 4 enfants. René Hyacinthe, qui fut à son tour gouverneur de Rennes, Louis Marcel, Anne-Marie et Louise Philippe. À l'époque, j'étais connue comme dame de grande piété, bienfaitrice des pauvres. On me dit bonne et généreuse, amoureuse de la vie. J'ai toujours refusé d'être présente lors de l'exécution d'un condamné, préférant passer ma journée recluse à prier pour l'âme du malheureux. J'ai aussi aimé les arts, les belles choses. La légende dit de moi que j'étais belle. Elle a peut-être exagéré un peu. Je garde discrètement et secrètement le reste de ma vie. Ma mort, en revanche, restera célèbre. J'ai quitté ce monde à l'âge de 47 ans, en 1677. Je suis alors inhumée au cœur du vieux Rennes, dans la chapelle du couvent des Carmes. Elle a été détruite en 1798. Retenez bien cette date, parce que c'est à ce moment-là que l'histoire et la légende se rejoignent. C'est lors de la démolition de la chapelle, lors du percement plus précisément, que l'on découvre mon corps, 120 ans après mon inhumation. Ma dépouille est retrouvée intacte, une particularité que l'on appelle l'incorruptibilité, comme pour de nombreux saints et saintes, tels Bernadette Soubirou, Padre Pio ou le curé d'Ars, pour ne citer que des exemples récents. Ma dépouille est transférée, ici même, au cimetière du Nord, créé en 1789, mais j'y reviendrai plus tard. C'est donc ainsi que je suis morte, en odeur de sainteté, si je puis m'exprimer ainsi. Quand on s'aperçoit que mon corps est resté intact, les gens me prêtent des pouvoirs de guérison. C'est alors qu'on fait de moi la sainte aux pochons. La légende dit qu'en prenant un peu de terre au pied de ma tombe, en la faisant glisser dans un pochon, comme on dit en Bretagne, c'est-à-dire un petit sachet, et qu'en gardant pieusement ce même pochon autour du cou du malade, après 9 jours de prière, le miracle de la guérison est censé s'accomplir. Une fois le mal disparu, les gens me montrent leur gratitude en accrochant leur pochon sur la croix de ma tombe. et au fil du temps, l'humidité fait son travail, le pochon se désagrège et la terre retourne à la terre. Savez-vous qu'aujourd'hui encore cette tradition perdure ? En 2 siècles de célébrité post-mortem, j'en ai vu des pochons. Martine, pour son mari atteint de la fièvre typhoïde. Jean, pour son fils René souffrant des bronches. Madeleine, pour les hémorroïdes répétées de Yves. Armand, pour la mélancolie d'Alice. Et même Pierrette, pour l'asthme de son chat. Un cimetière, c'est un lieu de souvenirs, d'histoire, mais aussi de légende. Vous avez certainement remarqué que le lierre a entièrement envahi ma sépulture, et elle-même recouverte de pochons. Autrefois, ils étaient en toile. Aujourd'hui, hélas, ils sont en plastique. Je le regrette pour la santé de notre planète. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, puisque depuis 5 ans, grâce à une décision municipale, nous sommes ici à l'abri des pesticides. Mais revenons à mon lierre. Savez-vous qu'il symbolise l'attachement et la fidélité ? C'est bien vrai qu'il ne lâche pas facilement l'endroit sur lequel il grimpe. Il symbolise la vie éternelle, car il reste toujours vert. Dans la mythologie celte, selon la légende, cette plante permettait à celle et celui qui la consommait de se voir ouvrir les portes de l'au-delà. Depuis l'aube des temps, le lierre est aussi le symbole de l'amour-passion, qui chacun sait depuis Héloïse, Iseult ou Juliette, se termine tragiquement. C'est peut-être pour cela qu'elle est devenue une plante funèbre. Bien. Je vous laisse à présent poursuivre votre balade intemporelle. Vous aurez tout le loisir de découvrir ce cimetière du Nord, le plus ancien de Rennes, construit en 1789, je vous le disais plus tôt, dans un champ appartenant aux moines de l'abbaye Saint-Melaine. Il s'est agrandi petit à petit, puis bombardé en 1943. Et il s'étend aujourd'hui sur plus de 9 hectares et accueille 14 000 sépultures. Je vous ai parlé de mon lierre, mais vous pourrez également flâner sous les cyprès et les séquoias. Il faut, pour notre gloire, penser aux malheureux, qu'une œuvre méritoire profite aux plus nombreux, pénétrés d'indulgence, pour vaincre notre peur, toujours par la clémence, triomphe le bonheur.
Alors à chaque fois, c'est un nouveau cimetière et vous êtes 5 comédiennes à interpréter. Est-ce qu'on peut dire interpréter d'ailleurs ?
Et ben justement, on est au bord de l'incarnation. On s'est attaché d'abord à écrire d'après les archives, donc l'histoire qui est écrite déjà de leur passé, soit par la famille pour les illustres inconnus, ou quelquefois il y a des femmes d'histoire, des scientifiques, des artistes dont il y a pas mal de traces écrites. Donc là-dessus, on essaie d'être au plus près de leur vie. Et donc, il ne s'agit pas d'aller au-delà de ce qu'elles ont été. Donc, moi, j'ignore les voix qu'elles ont eues, l'énergie qu'elles dégageaient. Je le fais pour le coup à ma manière, avec ce que je ressens de ce que j'ai pu lire sur elles, quelquefois entendu aussi, puisqu'il y a des femmes qui sont décédées il y a peu. Je pense à Jo Manix, que je n'interprétais pas moi, mais qui était portée par Inès Cassignol, qui était une bédéiste qui est morte très jeune et récemment. Donc il y a aussi les familles qui sont présentes. Donc à nous de veiller, d'être respectueuse et de ne pas dépasser certaines limites. On n'invente aucune parole qui ne soit pas relatée par soit les archives ou soit la mémoire de la famille. C'est important. Ou alors, ce sont des personnages qui sont, par exemple, la marquise de Quedlogon du XVIIe, je lui fais chanter une chanson, peut-être ne chantait-elle pas. Quelquefois, il y a des petits apartés qu'on se permet pour rendre un peu vivante la parole, mais on s'attache quand même à rester très proche de ce qu'a été la personne. Et de ne pas aller trop loin, et de ne pas trop non plus jouer. C'est quelque chose qui se voit, bien sûr, puisqu'il y a le portrait vivant, qui ressurgit au pied de la tombe, portée par une comédienne, bien sûr, que nous sommes. Mais c'est aussi quelque chose, un moment que l'on écoute. Et on peut fermer les yeux aussi, peut-être, en assistant à ce spectacle-là, et juste entendre. C'est un lieu qui est chargé, et en même temps, qui est un peu suspendu. Parce que loin, loin des bruits de la ville, même si on les entend loin, il est un peu protégé et c'est un moment un peu irréel. Alors la parole, la voix, la valeur de la, même les qualités de nos voix, on chante aussi ensemble, sont importantes. En tout cas, moi je m'attache à trouver la voix de chacune d'entre elles. C'est aussi par là que j'ai envie de commencer. Me dire, tiens, quelle voix je vais utiliser, quel rythme, quelle tessiture peut-être je vais utiliser pour qu'est-ce qui va me... Des fois, des choses viennent spontanément, soit par l'humour aussi que la personne, me semble-t-il, apportait, ou alors peut-être la temporalité, peut-être le statut social fait que voilà, ça évidemment, avec notre imaginaire et c'est depuis notre personne, et ben on trouve une qualité de voix. Et je trouve que c'est important de commencer par là, pour moi en tout cas. Et puis après, l'espace de jeu est physiquement réduit, puisqu'on reste auprès de la tombe, on reste devant ou derrière ou à côté. En tout cas, c'est un espace assez réduit. Et on réunit les spectateurs, spectatrices à faire cœur autour de cette tombe. Et c'est aussi... Je dis l'espace est réduit, mais il y a aussi une itinérance, il y a un petit trajet qu'on a composé ensemble, d'abord autour d'une chanson d'Anne Sylvestre, Portrait à mes aïeuls, qui est important, qui est notre hymne que l'on chante à chaque fois dans les cimetières avec les quatre copines qui m'accompagnent, amies, copines et comédiennes. Et donc on a un parcours. Et ce petit itinéraire est aussi comme un jeu de piste qui nous amène à notre tombe. Et puis après, on repart joyeusement, on quitte le cimetière, toujours porté par cette chanson d'Anne Sylvestre. Quand le public arrive, on accueille donc ce public en chantant cette chanson d'Anne Sylvestre. Et après, le public suit l'une d'entre nous et les autres partent se recueillir sur leur tombe. Et ce temps-là, c'est aussi un temps très très étrange où on est seul devant la tombe de cette personne que l'on va peut-être déterrer, enfin dont on va déterrer en tout cas la mémoire, dont on va refleurir peut-être la mémoire. Et ce temps-là, il est suspendu aussi. Le public n'est pas encore là. Et quelquefois, il peut durer trois quarts d'heure si on est la dernière à être visitée. Et donc, c'est très très long. Et c'est des moments savoureux, quelquefois angoissants. On se dit, mais vont-ils venir? c'est des moments qui sont assez exceptionnels. J'avoue ne pas avoir vécu ça ailleurs. Voilà, attendre le public, attendre le groupe qui va venir vous visiter. En tout cas, c'est très joyeux. Ça n'a rien de morbide. D'abord parce qu'on est heureuse et fière de porter porter haut le verbe et la voix de ces femmes disparues. Mais pas disparues à jamais, puisqu'on leur donne à nouveau une voix et on leur donne vie. Et c'est un honneur, c'est une fierté, c'est une complicité, c'est aussi rentrer dans l'histoire, la petite et la grande. C'est savourer plein d'histoires méconnues. C'est aussi se dire que elles ont été quelquefois malencontreusement mise de côté, mais j'entends de façon méthodique. Je pense à toutes ces femmes scientifiques dont on n'a jamais relaté le talent et les découvertes. C'est un devoir pour nous de rafraîchir tout ça.
Et dans chaque cimetière, il y a un noyau de 3 comédiennes. En tout cas, vous suivez Laure dans les différents cimetières en France. Et vous faites aussi appel à 2 comédiennes de la ville où vous allez jouer. Donc des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Comment ont recréé cette complicité-là très vite et souvent pour 1 ou 2 dates?
Oui, mais c'est fabuleux comme expérience. Effectivement, je pense à Strasbourg. Nous avons rencontré 2 élèves du TNS qu'on ne connaissait pas. Et dès la première minute, d'abord parce que le temps est très court, donc on n'a pas 15 jours de répétition. On sait pourquoi nous sommes là, les rôles sont distribués. On a le même temps de parole et d'expression. C'est aussi important, il n'y a pas de premier rôle. Et on ne se tire pas la bourre, il y a quelque chose de très, très solidaire entre nous. Et c'est une nécessité. Donc il y a une très bonne ambiance tout de suite. C'est miraculeux, c'est peut-être Laure qui fabrique tout ça. En tout cas, c'est Laure qui choisit, qui fait la connaissance en premier lieu de ces comédiennes. Et puis, on se rencontre très vite. Et le chant favorise aussi le fait qu'on ait un hymne pour nous retrouver. On rentre tout de suite dans cette matière chantée. Et puis, ce lieu est un lieu incroyable. Donc, on se met tout de suite à la tâche dans les cimetières où on va pique-niquer quelquefois, où on va répéter, où on va s'amuser, parce qu'il faut bien s'amuser, c'est important. Chaque minute est importante pour recréer effectivement du lien. Alors, on crée notre but, c'est aussi enfin, notre but, notre désir. On a à cœur de créer du lien avec les personnes qui sont en dessous, mais celles du dessus doivent aussi créer du lien entre elles. Et ça se fait tout à fait spontanément et à chaque fois.
Camille Cardellan, vous êtes comédienne, vous jouez souvent quand même dans les théâtres plutôt. Et qu'est-ce qui vous attire, vous anime ou parfois vous bouscule de jouer dans les cimetières?
Alors ce qui me plaît, c'est le lieu même du cimetière. C'est un endroit que j'ai souvent visité d'ailleurs pour apprendre des textes de théâtre. C'est un endroit silencieux et qui m'a souvent permis de pas du tout de me recueillir, mais de me concentrer et d'être dans un endroit où je savais que je n'allais pas être dérangée. Je me trouve de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise. J'avais peur avant de porter la voix haute ou de rire dans le cimetière ou même de chanter. Peut-être que je sacralisais sans le vouloir aussi cet endroit. Je me suis permise plein de choses en respectant évidemment les personnes dont on dresse le portrait. Mais on peut aussi chanter, on peut aussi rire, pourquoi pas. On peut courir, on peut y passer du temps pour lire et pas forcément se recueillir. Voilà, enfin, tout est possible dans ce lieu-là, évidemment. Et c'est aussi un lieu qui devient de plus en plus, qui s'est végétalisé, puisque je fais partie de, dans mes personnages, je ne manque pas de le dire, qu'avec l'arrêt des pesticides qui a été décidé, maintenant, les cimetières se végétalisent de plus en plus. Et c'est aussi des lieux donc, qui sont beaux. Il y a au-delà des fleurs. Moi, je ne suis pas passionnée. Je ne suis pas très sensible aux bouquets fleuris, surtout ceux qui sont en plastique, sur les tombes. En revanche, toutes ces ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui ne le sont pas du tout, quand elles fleurissent, de voir des bourdons, des papillons et des abeilles, ça m'enchante. Je trouve ça délicieux de voir la vie s'installer dans les cimetières. Et je trouve que ça fait sens pour moi. Voilà, c'est aussi un lieu vivant.
Est-ce qu'il y a une celle d'en dessous qui vous a touchée particulièrement?
Alors, elles sont toutes très touchantes pour différentes raisons. Dorette Muller, par sa surdité et son monde du silence, était... quelqu'un qui m'a ouais, qui reste en mémoire. J'ai beaucoup aimé, et ça c'est la comédienne que je suis, me rapprocher de Topette, qui était très très fantaisiste. Elles sont toutes à leur manière, la marquise de Couëdlogon, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est hors de la vie, elle est presque une légende dans sa tenue de marquise. Il y a eu aussi Cécile Sauer, qui est une dessinatrice, qui a connu d'ailleurs, qui a connu Dorette Müller. Elles étaient ensemble à la Maison des Arts Décoratifs de Strasbourg. Et elle était dessinatrice pour le musée d'archéologie de Strasbourg. Donc c'était une femme, alors pour le coup, je pense plus sérieuse que Topette, un peu plus austère, mais qui a consacré sa vie donc aux vestiges, et elle dessinait pour le musée. Voilà, et bientôt, à venir, je suis en train de faire connaissance avec Julie Rose Calvé, qui est une cantatrice. Alors c'est assez loin de moi, je vais essayer de la rendre la plus vivante et la plus chanteuse possible. Mais c'est délicieux de partir à leur rencontre, parce que de leur naissance à leur mort, on s'attache à des instants de vie qui sont sensibles et très touchants, enfin, qui nous rapprochent de nous-mêmes, de la vie. Enfin, ce ne sont pas des personnages de théâtre, c'est quelque chose de... ça touche vraiment au sensible. Donc on peut être ému, amusé, et terriblement en empathie évidemment avec elle. Et puis on parlait de sororité avec des comédiennes, mais avec aussi toutes ces personnes qui ont vécu, dont on porte la mémoire. Retrouver au bout la lumière, c'est au visage que je vois. Y a qu'à voir la gueule à Madeline, avec son bonnet à tuyaux. Y a qu'à voir la gueule à Mathilde, assise devant son piano. Vois paysanne aux mains rugueuses, reposant sur le tablier. Souvent pas être malheureuse, ignorant même ce que c'est. Je ne peux croire que la force, quand ton regard calme je vois. De jour en jour, de gosse en gosse, sois pas arrivé jusqu'à moi. Ai-je ta volonté farouche, toi la femme du bûcheron, toi l'inconnu, et bien bouche, dont je ne sais même le nom, maître de qui m'a fait à coudre. La silencieuse Marie, aigle d'orage que de foudre, réduise tant de broderie. Il n'y a qu'à voir la gueule à Madeline, avec son bonnet à tuyaux. Il n'y a qu'à voir la gueule à Mathilde, assise devant son piano.
Merci beaucoup, Camille. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Oui. Oui, que j'ai un lien très fort aussi avec quelques-unes de ces comédiennes par la broderie. On parle de lien, de fil, mais nous brodons symboliquement. De façon imagée, on brode des portraits, mais on brode véritablement aussi des portraits à l'aide d'un fil et d'aiguilles sur des banderoles au service de HF, égalité homme-femme dans le milieu du spectacle vivant. Et c'est quelque chose de savoureux qui nous rapproche aussi.
Pour assister au spectacle Celle d'en dessous, rendez-vous les 29 et 30 septembre 2023 à 11h et 16h au cimetière Saint-Cyr et alentour à Rennes. Réservation auprès de La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour la musique. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast. On termine en musique avec Anne Sylvestre, Portrait de mes aïeuls.
Je vous appelle à la rescousse, je vous appelle à mon secours. Femmes en qui j'ai pris ma source, mais dont l'image tourne à court, qui ne demeurait dans l'histoire que sous la forme de portraits, pour vous dont l'œuvre dérisoire, jour après jour, se défaisait. Je vous appelle et je commence, derrière l'immobilité de vos maintiens de convenance, à deviner la vérité. Quand monte en moi la colère, que désespérément je crois retrouver au bout la lumière, c'est vos visages que je vois. Y a qu'à voir la gueule à Madeleine avec son bonnet à tuyaux. Y a qu'à voir la gueule Mathilde, assise devant son piano. Toi, paysanne aux mains rugueuses, reposant sur le tablier, pouvant pas être malheureuse, ignorant même ce que c'est, je ne peux croire que la force, quand ton regard calme je vois, de jour en jour, de gosse en gosse, sois pas arrivé jusqu'à moi. Ai-je ta volonté farouche, toi la femme du bûcheron, toi l'inconnue périe en couche, dont je ne sais même le nom, mère de qui m'apprit à coudre, la silencieuse Marie. Mais que d'orage, que de foudre, réduit sous tant de broderie. Y a qu'à voir la gueule à Madeleine avec son bonnet à tuyaux. Y a qu'à voir la gueule à Mathilde assise devant son piano. Toi l'opposé, toi la bourgeoise, ou toi mon deuxième versant, que de ténacité narquoise je trouve en ton regard perçant. Sans hériter, Dieu m'en préserve de toute ta malignité. Je voudrais qu'en moi se conserve ta terrifiante volonté. Anna mourut de son cœur tendre, sa fille a tenu plus longtemps. Je vis, j'essaye de comprendre, et je m'égare trop souvent. Mais quand la vie se fait plus dure, je pense à elle et je repars. Je veux sauver leur aventure, je veux qu'il ne soit pas trop tard. Je veux garder la gueule à Madeleine avec son bonnet à tuyaux. Je veux garder la gueule à Mathilde assise devant son piano.